Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu?
Bonjour à tous, bonjour Médiel Canafi, ça va bien et toi?
Ça va plutôt pas mal, il fait frais, je suis content, même si on est en t-shirt.
Voilà, pas encore le début de l'automne bien tassé déjà, on va dire.
Est-ce que tu t'es remis du seum de la Coupe du Monde de rugby ou pas encore?
Ah, c'était dur.
Il faut apprendre à vivre avec.
Ouais, bon, c'est ça fait un peu enflé par l'arbitre, mais bon, ouais. On va pas, voilà, restons courtois.
Regarde, dans un sport que j'aime bien, moi, voilà, il y a 3 titres qu'un certain Max a eu, il y en a 2 qui sont volés. Voilà, je vis avec, et c'est comme ça, écoute.
La vie n'est que somme.
Le règne, des fois, se termine, et vivement que celui-ci cesse. Cette semaine, on va faire le bilan et observer le monde du jeu vidéo maintenant que le deal entre Microsoft et Activision Blizzard King est enfin entériné. Dans quel état retrouve-t-on Sony et Xbox après cette bataille? Comment chacun de ces belligérants va rebondir, va réagir après 22 mois de combat intensif? Nico, il est temps de faire l'inventaire d'après-guerre.
C'est bien résumé.
Puis, dans la... Ben voilà, c'est bon. Puis dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons de Cocoon, un jeu qu'on serait tenté de désigner comme petit, mais ça serait une grave erreur, tant le titre est grand par son génie et son ampleur. Bon, du coup, il y a zéro suspense, hein, j'ai aimé. Vous verrez du coup dans la chronique qu'est-ce qu'il en est. Vous retrouverez bien entendu l'interlude de Top 3, mais avant, c'est la rubrique Retour sur l'émission 119, dans laquelle nous parlions de Assassin's Creed Mirage. Nico, c'était ta chronique, c'est toi qui l'avais à l'époque terminée. Moi, j'étais dans une partie qui était en cours, et depuis, bah, j'ai pu conclure l'aventure principale. Et bah, sur ce que tu nous avais raconté de cette fin cryptique, bah, j'abonde en ton sens, parce que j'ai rien capté.
Je suspectais en effet que si tu n'avais pas les tenants aboutissants de Valhalla et d'avoir fini l'aventure, la conclusion de Mirage était un peu nébuleuse. Ça a l'air d'être le cas.
C'est complètement,
je confirme.
Complètement le cas. J'avais le twist sur Valhalla, j'avais pourtant le rôle que Bassim jouait dans cet épisode, et pourtant j'ai rien capté, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que il y avait moyen, ils étaient à deux doigts de faire un jeu avec plusieurs niveaux de lecture, avec une fin qui était agréable pour le premier, pour quelqu'un pour qui c'est son premier Assassin's Creed, avec un vrai twist, une vraie intrigue et un vrai coup de surprise, quoi.
Ouais.
Et en fait, à la seconde où en fait j'étais devant cette fin, j'ai fait « Oh !» la surprise. Et après, j'ai fait « Oh, c'est sympa, c'est bien joué !» Et la seconde d'après, j'ai fait « Oh !» J'ai rien capté. Mais vraiment. Et après, tout du long, ça dure quoi? Quelques vingtaines de minutes. Oh, j'ai absolument rien bité. On en a parlé après. Il y a des vidéos dédiées sur le sujet. C'est au final assez intéressant. Mais ce qui est dommage, c'est que je trouve ça assez mal exposé.
Ouais, mais comme on disait, ils sont un peu pris entre deux feux avec cette ligne narrative de la méta-histoire qui voulait un peu laisser de côté. Et qu'ils ont quand même un petit peu accroché en toute fin, était-ce vraiment nécessaire? Je ne sais pas.
C'était pas évident pour eux, et on sent que le côté maladroit était peut-être dû à la difficulté de la tâche. En tout cas, voilà, Assassin's Creed Mirage, ça reste un épisode qu'on a beaucoup apprécié, et on vous renvoie vers l'épisode 119, voilà, qui lui était en partie dédié.
C'est
Nico,
vrai.
C'est toi qui commences cette semaine avec un gros dossier quand même. Gros dossier qui dure, hein. Et,
qui dure.
On a pris le temps pour faire ce bilan.
On peut même appeler ça un feuilleton, donc un feuilleton de presque 2 ans. Alors ça y est, le rachat d'Activision Blizzard King a été entériné pour Microsoft. Ça sonne un petit peu comme un aboutissement, hein, en fait, alors qu'il s'agit tout bêtement d'un commencement plutôt. Mm-hmm,
c'est vrai.
Maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Et enfin, chez Microsoft, toute l'énergie et la réflexion en interne vont pouvoir être utilisées pour autre chose que tenter de convaincre les autorités de la concurrence du bien fondé de ce rachat. Donc alors, un petit peu les challenges et les questions qui vont attendre Xbox maintenant que ce rachat est fait. Hein. Et on fera un petit tour aussi du côté de chez Sony, parce que bon... C'est comme les gosses, hein, quand tu parles de l'un, faut parler de l'autre, sinon ils sont pas contents, quoi.
Ah, ils étaient deux à se bagarrer, donc.
C'est vrai. Donc niveau Xbox, hein, il va y avoir des challenges déjà en organisation interne, parce que tu te retrouves aujourd'hui avec plus d'une trentaine de studios. Alors j'ai trentaine parce que ça dépend comment tu comptes, hein, c'est un peu compliqué encore. 17 000 employés en plus, hein, ça c'est pas négligeable, sans compter les 2300 employés qui étaient déjà issus de Bethesda, donc ça fait quand même beaucoup de monde à intégrer. Et là, Microsoft, maintenant, ils vont devoir apprendre à gérer un petit peu leur calendrier et leurs équipes. Alors, on sait qu'avant, déjà, ces rachats, rien qu'avec une dizaine de studios, on a cru comprendre, c'était un petit peu compliqué, déjà. On avait eu une année blanche, par exemple, sans AAA First Party. On avait eu des problèmes en interne qui avaient été relevés chez The Initiative pour développer Perfect Dark, et qui avaient même dû appeler Crystal Dynamics à la rescousse. Là, on voit que ça va être quand même une autre paire de manches, un autre challenge, parce que faut leur maintenant gérer cette trentaine de studios et organiser ton calendrier. Et là aussi, il y aura des questions toutes bêtes qui vont se poser. Hein. Par exemple, l'alternance selon les types de jeux. Aujourd'hui, Xbox, c'est Doom, c'est Halo, c'est Wolfenstein, c'est Call of Duty. Mmh. Comment tu fais? Est-ce que tu vas créer une sorte d'alternance? Est-ce que ça peut être l'occasion de donner plus de temps à Call of et d'arrêter de sortir un épisode chaque année?
Non, je pense pas que ce soit l'idée.
Ça peut être intéressant. Idem pour les MMO, hein. Maintenant, Xbox, c'est World of Warcraft et Elder Scrolls 9.
Donc, c'est vrai.
Deux des MMO, alors peut-être pas les plus vieux sur le marché, mais qui durent quand même depuis un bail. Enfin, moi, pour Elder Scrolls aussi, enfin, qui a pas la longévité de WoW, mais qui est quand même depuis, qui est là depuis un moment. Comment tu te débrouilles? Est-ce que tu vas intégrer ça dans le Game Pass? Est-ce que l'abonnement sera intégré dans le Game Pass et qu'il faudra payer des extensions? Ou l'inverse? Ça peut être à voir ça, comment ça peut se passer. Ça peut être aussi l'occasion, bah, de donner à Activision, l'opportunité de faire autre chose que du Call of. On sait qu'Acti, ça fait quelques années que tous les studios, bah, sont, viennent filer la main à la patte pour Call of. D'autant plus, depuis la sortie de Warzone, en fait, qui est devenu un projet super, demandeur en termes de ressources. Et finalement, ben, les studios en interne chez Activ font quasiment plus que ça. Mm-hmm. On sait, par exemple, qu'il y a Toys for Bob, hein, les mecs qui ont fait les Crash Bandicoot et tout, ben, qui ont été réquisitionnés aussi sur Call of. Est-ce que ça peut être l'occasion de leur profiler un petit peu autre chose à faire? Ça peut être une piste sympa. Mm-hmm. Est-ce qu'aussi Microsoft va pas, ben, pouvoir remettre un peu Blizzard sur les rails? On sait que pendant longtemps, Blizzard a résisté de son côté à la culture Activision et vraiment continué à faire, voilà, un petit peu son When It's Done avec des jeux de qualité, et avait conservé son prestige. Mais ça fait 4-5 ans que c'est complètement, ça a volé en éclats. On voit que Overwatch 2, ça a été compliqué. Diablo 4, malgré un lancement qui était à peu près réussi, là, ça commence un petit peu aussi à broncher avec la saison 1 qui est sortie. Donc voilà, question de gestion aussi. Est-ce que Blizzard va pouvoir un peu retrouver son lustre d'antan? Quoi qu'il en soit, maintenant, je pense qu'avec plus d'une trentaine de studios, ton objectif d'avoir un gros jeu AAA tous les 3 mois, bah, ça me paraît quand même atteignable, hein, sans trop de difficultés.
Ça serait bien.
S'il vous plaît. Donc, voilà, ça devrait bien se passer là-dessus. Et ce rachat, bah, c'est aussi l'obtention de licences à foison. Donc, voilà, on sait que est-ce que Xbox va pas pouvoir faire renaître, bah, des séries qui étaient disparues ou laissées un petit peu en jachère. Mm-hmm. Du Guitar Hero, du Tony Hawk, du Crash Bandicoot. Alors, Crash Bandicoot, il y a eu des épisodes récemment, mais bon.
Il y a eu le 4, ouais,
on se doute qu'ils n'avaient pas forcément envie de continuer après les ventes de Crash 4 qui étaient pas ouf. On sait que Phil Spencer, il tease un peu sur Exen, donc c'est un vieux FPS de l'époque. Est-ce que toi, il y a, c'est parmi ces licences certaines que tu voudrais voir revenir, petit Guitar Hero ou petit Crash?
Guitar Hero, il y avait des rumeurs, je crois, comme quoi ils voulaient le faire revenir.
Ouais.
Non, moi, c'est Crash. C'est sûr, j'aimerais trop qu'ils en fassent, justement, un nouvel épisode. Peut-être novateur, pas un épisode en 100% plateforme 2D, comme a pu être le 4, qui était un aboutissement dans la formule, qui était hyper dur. Quelque chose de peut-être plus Mario 64, Banjo, Donkey Kong 64, tu vois, un truc un peu ouvert. Après, je rêve, hein, parce que comme tu l'as dit, Crash 4, il avait pas eu des super résultats, même si, qu'est-ce que c'est? Tu vois, des pas super résultats. La trilogie Crash Bandicoot, les trois premiers, c'était plus de 10 millions.
Ça a été un carton.
Donc voilà, c'est toujours pareil, le succès et l'échec des jeux, c'est particulier, quoi.
Ouais. Donc, à voir comment ça va se passer. C'est vrai qu'on a vu un visuel, je vais éternuer, fais gaffe bientôt, peut-être.
En général,
quand je l'annonce, je le fais plus. On a vu un visuel passer avec Crash, Spyro et Banjo, qui sont maintenant des licences Xbox.
Spyro, c'est vrai.
C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Donc, la mascotte présumée de PlayStation est une des gros jeux de Nintendo qui sont aujourd'hui chez Microsoft, quoi.
Ah, comme quoi, ça rachète, quoi. Là, c'est l'illustration, tu vois, d'acheter des mascottes, des icônes et des... C'est incroyable.
Et si, finalement, il y avait un modèle à suivre pour Xbox, il leur permettrait de bien faire les choses? Alors, je vais te parler de quelqu'un, tu vas me dire si tu reconnais, hein. Mm-hmm. C'était une société qui était dans la technologie, un petit peu, qui avait un orteil dans le jeu vidéo, mais qui n'était pas à 100%. C'était après quand il s'est mis dans le jeu vidéo, qui a commencé à racheter beaucoup de studios, et qui a décidé de chambouler même l'industrie vidéoludique en changeant, par exemple, le prix des jeux ou le système de royalties pour les éditeurs. C'est PlayStation, en fait.
J'allais dire, est-ce que c'est ceux qui ont gagné?
Donc, voilà, en fait, c'est vrai que là, on voyait pendant le rachat des gens dire, ah non, mais des fans de PlayStation, toujours pareil, les fanboys un petit peu obtus qui disaient, non, mais Microsoft, c'est pas une société de jeux vidéo, c'est pas comme nous, PlayStation et tout. Alors que Sony, finalement, avec PlayStation, a eu un peu le même cheminement qu'a connu Xbox avec Microsoft avec Xbox, quoi. Donc, et on voit que Sony, petit à petit, ils ont racheté aussi des studios, ils ont eu des licences, des personnages forts, et ils ont réussi à créer une organisation et à créer un flot de jeux. Donc voilà, c'était pour la petite vanne, mais ça peut être un exemple à suivre pour arriver à se développer, quoi.
Et ça, on l'oublie, et c'est pourtant bien illustré avec tout ce qui est PlayStation Mini, tous les vieux remasters et tout. Quand Sony veut faire valoir, en fait, son patrimoine, sur la PlayStation 1, y en a pas. C'est que vraiment, c'était à l'époque où ils avaient rapatrié des licences et pas forcément des jeux en first party. Et donc, c'est ça. Oui. Donc, aujourd'hui, tous les ayants droit de ces jeux cultes n'ont aucun intérêt à laisser la primeur à Sony, même si c'était un jeu PlayStation 1 exclusif, tout ça. Donc
on se retrouve avec Kurushi dans PlayStation Classique.
Ils sont où, tous ces jeux trop cultes? Ben ouais, mais chaque éditeur, souhaite le garder, quoi.
Un autre challenge pour Xbox, ça sera de rendre l'environnement de travail plus favorable. Hein. On sait que Bobby Kotick va certainement se barrer en janvier de Activision, bon débarras. Et bon, même si on imagine que bosser chez Microsoft, c'est pas forcément le Club Med, hein, on imagine, la société a quand même fait des déclarations disant qu'il voulait améliorer quand même la culture de l'entreprise. Mmh. Alors, pas de souci pour Bobby, hein, il va s'en barrer avec un petit parachute bien goldé. Mais bon, on lui souhaite en tout cas de plus mettre son nez dans le jeu vidéo, quoi. Il y a des conséquences un peu collatérales maintenant qui n'étaient pas forcément attendues et qui sont intéressantes de soulever. Est-ce que finalement, c'est pas la fin des jeux indés sur le Game Pass? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le Game Pass, ça fait des années qu'il est alimenté par notamment des jeux indés. Je pense, je sais pas, à vue de nez, il y a 70% des gros jeux indés qu'on voit qui arrivent dans le Game Pass. Mm-hmm. Et idem pour des AAA, tu vois, on a eu Plague Tale, Lies of P, oui, ou Wulong cette année. Est-ce que ça aura encore un intérêt quand Microsoft aura ses propres jeux à proposer sur le service?
Oui, c'est vrai qu'ils auront peut-être moins d'intérêt à aller chercher. Là, c'est vrai qu'ils vont chercher. Ils vont chercher les gros AA ou les petits indés pour l'image. Ils font des chèques qui comblent souvent l'entièreté du développement pour le studio, donc ils sont très très contents. Et à terme, s'ils ont un vivier, pas infini, mais assez conséquent, de gros jeux, de jeux de qualité suffisants pour alimenter leur propre plateforme, bah, quoi, ouais, bon aller dépenser ailleurs ce que tu, enfin aller chercher un externe, pardon, ce que tu fais en interne.
Oui, surtout qu'on sait que maintenant voilà, ça va être le challenge de rentabiliser ses propres jeux, ça va pas être la même paire de manches, mais là, enfin, tous ces achats et ce qui crée un peu l'identité du Game Pass aujourd'hui, en fait, c'était un petit peu un bouche-trou en attendant d'avoir ses propres projets. Donc, à mon avis, il faudra plus trop compter sur ce genre de choses.
Que je sais même pas si tu l'as dit, mais on est sur du 68 milliards. Enfin, je veux dire, le
oh oui, dans le rachat.
Non, mais il faut, à un moment, il faut, Microsoft a de l'argent. Mais, c'est un petit billet, quand même. Il faut.
Une autre conséquence, c'est que Ubisoft devient le nouveau roi du cloud gaming. Hein, donc, Ubi a récupéré les droits à perpétuité de tout le catalogue Activision Blizzard existant, donc depuis la création de la société, et jusqu'à 2035. Donc, c'est-à-dire que Call of 23, qui sortira en 2034, bah, les droits du cloud seront pour Ubi. Et donc, ce sera à partir de 2035 que ça sera pour Microsoft, mais pour les nouveaux jeux. Donc, les jeux en l'état, ça sera à perpétuité. Et donc, on en arrive dans une situation un petit peu ubuesque, où Microsoft va devoir payer des frais à Ubisoft s'ils veulent proposer le nouveau Call of sur leur service de cloud. Mmh. Et donc là-dessus, on voit que Ubisoft, ça devient le nouveau roi du cloud, qui est quand même plutôt paré pour le futur, quand même, ouais, quand t'as des licences aussi grosses pour toi.
Ouais, alors ça, d'un point de vue extérieur, c'est une situation qui peut paraître étrange. Tu l'as dit, il y a des situations très précisément qui sont ubuesques, mais c'est quelque chose qui peut être commun si tu prends du recul en NBA. C'est quelque chose qui se passe souvent sur des trades à trois, en tripartite. C'est qu'il y a vraiment des choses, des fois, qui vont amener à un transfert de joueurs qui va coûter des millions, des millions. On parle d'ici en comparaison à Activision, Blizzard King. Et t'as les deux qui se font face, les deux grosses franchises qui veulent pas lâcher. Bah, tu vas chercher un troisième pour qui d'autres joueurs, ou je vais arrêter l'analogie pour pas vous perdre, mais qui vont, en fait, cette troisième partie va avoir un intérêt au deal des deux premiers. Mmh. Et donc là, en gros, Microsoft, Ubisoft, ils sont allés chercher en lui disant, dis-moi, toi, est-ce que ça t'intéresserait pas, qui pourrait calmer, du coup, la partie adverse. Et en fait, tout le monde y trouve son compte, ça donne des tripartites très complexes, du coup, dans le montage. Mais finalement, c'est pas si bizarre, je crois.
Après, évidemment, hein, c'est pas des droits qui sont cédés à Ubisoft, hein, Ubisoft a payé pour ça. Mais je serais quand même super curieux d'avoir connaissance du process, comment le nom est arrivé sur la table. Comment t'en viens à avoir ce genre de réflexion? Enfin, je pense qu'on le saura peut-être jamais, hein, mais c'est
peut-être qu'on le saura jamais. Après, Ubisoft, fut un temps, ils étaient tout le temps dans les bons coups. Ils étaient dans les line-up, ils étaient dans les nouveaux matériels. Et c'était toujours les premiers. Est-ce que ça reflète de leur...
Ils ont trouvé le flair.
Alors, où ils ont le flair? Où ils sont partout? Tu vois, genre, Stadia, ils étaient là tout le temps.
Ils sont sur Luna, ouais.
Est-ce que là, pareil, tu vois, ils ont dit, il y a un deal. Pour l'instant, personne nous a appelé. On va aller, il a pris le téléphone.
Il envoie des textos. C'est comment ça se passe?
Il a un petit WhatsApp.
Donc, bah, Microsoft, hein, maintenant, ça y est, hein, on l'a dit, c'est pas la fin d'un process, c'est le début d'un nouveau. Ils ont toutes les cartes en main. Ça devient, tout bêtement, bah, Xbox, hein, pas Microsoft, mais Xbox devient le troisième acteur du jeu vidéo en termes de chiffre d'affaires.
Ouais.
Donc, derrière Tencent et PlayStation. On voit que Bobby Kotick va dégager. Pete Hines de Bethesda a annoncé aussi qu'il prenait sa retraite. Donc, maintenant, voilà, la route est dégagée pour Xbox. De placer éventuellement ses hommes de confiance et d'imprimer sa marque sur le reste des sociétés. Ça aussi, c'est commun quand tu rachètes que les têtes de figures de proue laissent leur place.
Oui.
Donc, à voir maintenant comment ça va se passer. Alors, c'est vrai qu'on a entendu à droite à gauche, et je suis plutôt d'accord, est-ce que ça marque pas un petit peu aussi la fin du règne de Phil Spencer? On sait qu'il est président de Xbox depuis maintenant quelques années. C'est des boulots qui sont demandeurs, qui sont exigeants. Il a quand même mené sa révolution en interne avec le côté voilà nouvelle gamme de consoles X et S, faire de Xbox la nouvelle console la plus puissante pour chaque génération. Il a mis en place le Game Pass dans la formule qu'on connaît aujourd'hui, l'objectif du cloud, l'ouverture au mobile, au PC. le rachat Activision Bethesda, voilà. Est-ce que le job il est pas fait maintenant et let's go, je m'en vais.
Ah oui, quoi. Clairement. Et puis même l'incarnation, il a été la représentation de la marque. Non, moi je suis d'accord avec toi, le boulot est fait et il mériterait. Et puis peut-être qu'il va dire, je suis fatigué quoi. Enfin,
après je me dis, est-ce qu'il va pas rester peut-être un an ou deux pour jouer avec ses nouveaux jouets, tu vois, maintenant qu'il a quand même eu tout le catalogue Acti et tout. On va voir comment ça se passe. Enfin en tout cas voilà, on sait que les présidents vont en parler pour Sony, mais c'est pas des jobs où tu vas passer 20 ans non plus. Hein, c'est quand même compliqué quoi.
Le truc. Peut-être avant de passer à Sony, c'est que là, ils ont toutes les cartes en main. C'est-à-dire que s'ils n'y arrivent pas, s'ils sont pas devant Sony dans quelques années, il y aura des questions à se poser et tu les as posées. C'est-à-dire que structurel, organisationnel, tout ça. Parce que là, pour le coup, ils sont surarmés. Tu l'as dit tout à l'heure, ne serait-ce qu'en termes de planning, c'est à eux de se poser la question. Est-ce que, je dis n'importe quoi, sur un FPS de Noël Call of, est-ce qu'on va placer deux gros FPS, qu'on va passer deux MMO? Mais ça, c'est clairement la position de ceux qui cherchent des monopoles ou des oligopoles, c'est-à-dire des marchés à un ou deux acteurs. Là, ils ont tout intérêt à inonder le marché en même temps, de faire en sorte que à Noël, mais non, ils vont pas ventiler les. Pour moi, je pense qu'ils vont. Ça serait pas l'intérêt de ventiler les sorties, mais de tout bombarder à Noël, parce que tu sois un acheteur d'un jeu de Noël, que t'achètes une licence ou que t'achètes une autre, tu achèteras un jeu Microsoft. Donc, en fait, t'as gagné.
Surtout dans le cadre d'un abonnement où tu te dis, vas-y, là, je vois tout ce qui sort à Noël sur moi. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y aura une espèce d'échéance qui est peut-être pas vraiment définie en interne, mais un objectif de se dire si dans tant d'années, on n'a pas atteint notre objectif, ça sert à rien de continuer parce que ils auront tout donné et ils se seront donné tous les moyens pour y arriver.
Est-ce qu'ils vont avoir cette réflexion comme Google qui, tu vois, voit que Stadia marche pas et que dans sa courbe de lancement, il voit que ça, c'est pas sur les prévis, boum, il débranche. Là, Microsoft, ils ont quand même donné 100% potentiel à leur projet. Ça fait déjà plus de 20. Mais tu vois, toujours pareil, on dit Microsoft, les petits jeunes, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont sur le marché. Enfin, là, vraiment, comme tu dis, s'ils y arrivent pas.
Je pense qu'ils sauront se donner plus de temps que Google. Quand même, parce que
oui, bien
Google,
sûr.
Je pense, a été un fiasco de A à Z là-dessus. Mais effectivement, oui, bon, après l'achat, là, je pense, tu lâches pas 70 milliards pour te donner que 5 ans, par exemple, ça me paraît un peu court. Ils ont fait des déclats où ils parlaient vraiment des chances à très court terme.
Ils parlaient sur le succès du Game Pass aussi.
Mais je pense que c'était vraiment un peu pour des questions de mettre de la pression, enfin, sur les autorités de la concurrence et tout. Enfin, l'échéance, je peux pas croire qu'ils se laissent pas au moins 10 ans devant eux pour jauger ce truc-là.
Et tu l'as soulevé, le plus gros problème. Pour moi, sur lequel ils vont faire face, c'est sur l'organisation. C'est que là, on connaît un petit peu la réputation de Microsoft de racheter des studios, de leur vider de ses talents, de pas bien utiliser les IP. Même si on fait le tri, ils ont réussi à faire des bons jeux avec des studios déjà rachetés. Aujourd'hui, avec plus de 30 studios, comment tu fais pour créer une cohésion, une ligne éditoriale, ce genre de choses? C'est vraiment hyper compliqué. Ouais.
Et on sait que Bethesda et Acti Blizzard resteront sous leur propre étendard. Voilà, ça sera pas tout intégré, ça fera partie du même groupe, hein, mais ils auront quand même une certaine autonomie là-dessus.
Mais ça, d'ailleurs, à ce point, même si justement Bethesda va rester un petit peu indépendant, Activision Blizzard aussi, on croit souvent dans ces gros rachats qui sont monstrueux, qu'il va y avoir en fait des têtes qui vont sauter, qu'il va y avoir des postes qui vont être groupés. En fait, non, c'est justement le contraire. Il y a des postes qui vont être créés. Pour que même si Activision Blizzard et même si Bethesda reste indépendant, il faut des gens qui fassent la passerelle.
Ouais.
Ça, c'est des postes qui n'existaient pas. Et c'est un challenge de ma boule. Moi, j'arrive même pas à prendre conscience de l'organisation de ce truc. C'est monumental.
Ouais, mais c'est vrai que tu vois, on a vu chez PlayStation, on a eu Shuhei Yoshida qui était à la tête des PlayStation Studios sur l'époque PS4 et qui a ultra bien fait le taf. Là, c'est Herman Hulst qui a pris le job. Il faut aussi des mecs comme ça qui soient là pour gérer le studio. Enfin, ils ont l'équivalent, c'est Matt Booty chez Xbox. Et on a vu que déjà, sur un nombre restreint de studios, c'était pas forcément évident. Est-ce qu'il faudrait pas des hommes aussi
qu'ils prennent de la carrure, Matt Booty ou son équivalent, parce que personne n'en parle, personne le connaît.
Est-ce qu'après il y a Spencer aussi qui a tellement une aura et tellement de la présence qu'il éclipse un petit peu les autres, quoi. Passons à PlayStation maintenant, parce que chez PlayStation aussi, les temps sont un petit peu mouvementés.
Ça bouge.
On le rappelle, Jim Ryan a annoncé son départ à la surprise générale, hein, et il est certain que le rachat d'Acti, il leur fait pas du bien, forcément. Ça, c'est annoncé, quoi. Donc là, le groupe, il était quand même rentré dans une nouvelle phase depuis l'époque PlayStation 5, on va dire, avec de nouveaux objectifs visés, on va voir un petit peu quels étaient ces objectifs et où ils en sont aujourd'hui. Donc cette nouvelle politique a commencé par l'ouverture au PC, notamment, comme Xbox. T'as des licences aujourd'hui, des franchises qui coûtent tellement cher, tu peux plus te contenter de ton seul catalogue exclusif, enfin de ta plateforme. Donc voilà, on a les jeux qui arrivent sur PC, On a eu du God of War, du Uncharted, du Horizon récemment. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que c'est plutôt une manne qui fonctionne. On a vu que les jeux PlayStation étaient au top des classements PC.
Et donc, bonne stratégie avec ce décalage, un peu comme la chronologie des médias. Ils ont trouvé un rythme pour faire en sorte que leur console reste la plateforme idéale et de primeur. C'est-à-dire que si tu veux jouer au jeu Sony à la sortie, tu n'as pas le choix. Il faut acheter ta PlayStation 5. Si tu as un PC, tu es un peu patient et tu auras des exclusivités Sony. Et ça va redonner un second souffle, un second lancement, ce qui est pour un éditeur, créateur de tout, de créer un nouveau lancement, c'est le plus fondamental. Donc, stratégie plutôt convaincante.
Ouais, attention néanmoins, parce que c'est vrai que chez PlayStation, on bosse avec des outils dédiés et tout, mais on a vu que le portage de Horizon 2 et de Last of Us Part 1 avait connu quelques soucis sur les PC, donc il faudra qu'ils bossent là-dessus, quoi. On a eu aussi l'instauration d'un Game Pass-like, hein, donc la refonte du PlayStation Plus. On va pas se leurrer, il y a un échelon qui est carrément consacré à tu payes pour avoir accès à un catalogue de jeux sans surcoût, donc un vraiment comme le Game Pass. Là aussi, on voit que ils ont peut-être un système plus mesuré qu'Xbox. Pareil, c'est que t'as pas accès à ton gros jeu le jour du lancement, ça va prendre un petit peu du temps. Tu l'as dit, c'est un peu la chronologie des médias là-dessus. À voir, j'ai pas l'impression que ça a imprimé auprès du grand public. On parle beaucoup du Game Pass, on parle pas tellement de ce service chez Sony.
Moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait ce PlayStation Plus version 2 pour le faire.
Genre, il existe, voilà. Au cas où.
On a le Netflix du jeu vidéo ? Oui, on l'a nous aussi. Mais ce qu'ils en font, comment ils transforment l'ambition, comment ils alimentent, le truc n'est pas si vivant que ça. Même si tu peux y trouver un intérêt. C'est sans commune mesure avec le Game Pass.
Après, ils ont fait des efforts aussi pour se payer des fois des jeux exclus Day One. On l'avait vu avec Stray à l'époque, enfin des jeux indés comme a pu le faire Microsoft.
Oui, il y a eu des bons coups.
Comme tu l'as dit, je pense c'est plus, on a ça si demain on doit shifter de modèle, mais pour l'instant, on reste tranquille, quoi. Il y a aussi eu la vague de transmédia. Donc là, on a déjà vu les fruits apparaître. Et pour le coup, là, ça semble aller dans le bon sens. Alors, il y a déjà eu deux séries qui sont sorties, donc Twisted Metal, qui n'est pas arrivé en France pour le moment, et The Last of Us. Et au cinéma, deux films, donc Uncharted et Gran Turismo. Mm-hmm. Alors bon, moi, j'ai pas encore tout vu, mais The Last of Us, je pense qu'on est d'accord pour dire que la série était plutôt une réussite. Le film Uncharted, sans être vraiment réussi, c'était correct.
Ça fait le tafouné, quoi.
Ça se regarde. Voilà. Et Gran Turismo, toi, tu m'as dit que t'avais plutôt kiffé, donc je l'ai pas encore vu, moi. Donc là-dessus, ça semble aller dans le bon sens, sachant qu'ils ont quand même en prépa deux grosses cartouches avec Horizon et God of War. Donc ça sera une série Netflix et Amazon Prime, si j'ai pas de bêtises. Okay. Donc là-dessus, Transmedia, ça fait le boulot, quoi.
Ouais. Et puis, ils ont mis les moyens, c'est-à-dire qu'il y a ils ont une belle marge de progression. Ce qu'ils ont fait, c'était déjà ou qualitatif ou pas si mal, on va dire. On n'est pas sur de la catastrophe industrielle comme on a pu le voir je sais pas combien de fois avec des produits dérivés, des films, des séries éclatées. Là, on est sur quelque chose avec une ambition. Toujours pareil, ils ont leur logo. Tu vois, c'est toujours... C'est comment tu
fais fait sérieusement.
Voilà, c'est fait sérieusement. Donc, peut-être que du bon à attendre de ce versant, quoi.
Le jeu service maintenant. Donc, on sait que, voilà, Sony veut en faire son deuxième gros pôle, hein, pour PlayStation avec les jeux solo, super bossés, quoi. Donc, récemment ont été dévoilés les projets de Haven Studios, donc le studio de Jade Raymond. Donc, avec le jeu Fair Games, on a vu un trailer qui est passé. Et aussi le nouveau Bungie, donc avec Marathon, le retour de la licence Marathon. Alors, deux jeux qui avaient des trailers plutôt stylés, mais voilà, on est vraiment dans du multi, à plusieurs, quoi.
Oui.
Donc là, on croit comprendre par contre que c'est un peu plus compliqué en interne. On sait que Naughty Dog est sur un projet Last of Us multijoueur qui apparemment aurait été mis au frigo. Donc on a Bungie qui joue un peu le rôle de mentor là-dessus, qui va un peu jauger les projets en disant « Ah, toi, je pense que c'est bien, toi, je pense que c'est pas top. »
Si c'est le fossoyeur des projets, ils vont pas se taper une réputation en interne.
Je pense que ça va pas être évident à gérer ça. Donc en tout cas, soi-disant, ils auraient jugé le projet de Last of Us pas capable de tenir sur du long terme. Donc ce projet aurait été mis un peu de côté. Et maintenant, peut-être que Naughty Dog se focalise sur son prochain jeu solo en attendant de voir quoi faire là-dessus.
Ou pas suffisamment quali pour être une licence Last of Us. Last of Us peut pas se permettre de faire un jeu service middle. Tu vois, il faut que le multi, nous ça nous a pas intéressé, mais le multi de Last of Us avait bonne réputation, il a tenu des années, il était qualitatif.
Ouais.
C'est les grandes licences comme ça peuvent pas faire des jeux moyens, quoi. Donc, peut-être Bungie, ils ont dit ça suffit pas.
On a appris aussi qu'il y a eu des licenciements chez Deviation Games. Alors c'est pas un studio interne, mais c'était un studio avec qui Sony a signé un partenariat pour développer un jeu service. Donc sachant que son fondateur avait déjà quitté l'entreprise il y a quelques temps, ça c'est un petit peu le roussi là-dessus. Et finalement, entre les soucis qu'on a eu par exemple sur Avenger, Suicide Squad qui a repoussé son lancement de presque un an et qui semble un petit peu galérer, ou même la récente annulation de Hyenas, le jeu de Sega.
Ah oui.
Est-ce que le jeu service, c'est encore l'Eldorado qu'on nous a promis, quoi, finalement?
Et donc, ils seraient complètement à contre-temps sur leur nouvelle politique éditoriale.
Un peu à la Ubisoft,
ça serait, j'allais le dire. Là, ça serait vraiment, catastrophique. Parce que, on sait l'amplitude qu'il faut, l'inertie énorme qu'il y a sur un développement de jeux vidéo qui va prendre, 4, 5 ans, 6 ans. bah là tu te trompes et que tu te rends compte qu'au bout de 4 ans il y a l'ensemble de tes projets et la direction, le cap que tu as pris qui est pas le bon. Là je pense que ouais, c'est ça serait très très
à voir. C'est vrai que c'est un secteur avec voilà beaucoup d'appelés, peu d'élus, et les élus justement ils ont pas l'air de vouloir laisser leur place. On a Fortnite qui est là depuis des années et des années. Est-ce qu'il y a encore la place? Certainement. Après, Sony avait quand même été plutôt pragmatique là-dessus en disant on va lancer, on a 10 projets en gestation.
Oui.
Il y en a forcément certains qui vont exploser en vol, mais il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui cartonnent. C'est ça un peu l'objectif.
La politique du volume, c'est que tu vas en faire un nombre assez conséquent en espérant qu'il y a des 1 ou 2 bah, qui sauvent les 8 ou 9 autres qui...
Ce qui est un peu terrifiant, je trouve, pour les studios qui charbonnent derrière en disant bah, ce sera peut-être nous soit qui allons passer à la casserole, soit qui allons réussir.
C'est le cas dans énormément d'industries. Mmh.
On passe aux jeux mobiles. Alors, c'est pas forcément le secteur qui nous excite le plus ici, mais bon, c'est quand même devenu un enjeu. Enfin, ça fait des années que c'est un enjeu important. Donc, c'est le pan qui semble avancer le plus doucement chez Sony. Tout simplement parce que rien n'a vraiment filtré depuis qu'ils ont lancé l'instauration d'une branche PlayStation mobile.
C'est vrai. Ouais.
Donc, il y a récemment, ils ont acquis Savage Game Studios. Donc, c'est le premier studio qui, dédié au mobile en interne. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a Nicolas Sébastiani qui était directeur de la division mobile PlayStation Studio et ancien directeur de contenu pour l'Apple Arcade, qui a été débauché par Sony à cette occasion-là, mais qui a quitté son poste en juin dernier, à peine après 2 ans en interne. Et pour le coup, on n'a pas vraiment encore eu l'occasion de voir des fruits de son travail, quoi.
Okay.
Donc, c'est vrai que le mobile, j'ai dit, c'est devenu un enjeu très fort. On a Take-Two qui a racheté Zynga pour masse monnaie. Et donc, Microsoft aussi, qui s'est renforcé avec le rachat d'Activision Blizzard. Parce qu'évidemment, la branche King, celle qu'on a tendance à oublier un petit peu, mais qui rapporte masse de thunes là-dessus. Et on sait que Microsoft, ils ont pour objectif de créer leur propre boutique d'applications qui sera concurrente à l'App Store, par exemple. On sait que sur Android, c'est un peu plus ouvert, mais là, il y a eu un jugement. Apple, on a dit, Apple, tu dois autoriser maintenant les stores alternatifs sur ta plateforme. Sinon, c'est que tu bloques un peu la concurrence. Donc, le but de Microsoft, évidemment, ça va être de mettre ses jeux dessus, mais aussi d'attirer les jeux des autres pour pouvoir briser ce monopole. Donc, tu auras vraiment ta boutique Microsoft dédiée sur les téléphones. Pourquoi tu te marres?
C'est génial que Microsoft veuille lutter contre le monopole, je trouve. Non, mais c'est toujours pareil, c'est une question de point de vue, de perspective. Ah, là, on est sur le secteur mobile, et t'as Microsoft qui est, tu vois, point en l'air.
Laissez-nous libérer
les gens. Ça va passer, ouais, c'est marrant.
Et donc voilà, enfin, c'est vrai que c'est un pan qu'on oublie, mais Activision Blizzard King, le rachat, ben, ça positionne Microsoft comme un acteur du jeu mobile super important, quoi.
Ouais, carrément. Je sais pas si c'est un leader, mais ça fait partie c'est des top teams, quoi.
Donc voilà, Candy Crush, maintenant, c'est un jeu Microsoft.
Incroyable.
Donc Sony, il y a quelques turbulences, on vient de le voir. On pourrait se dire, écoute, ils sont là pour se recentrer autour de ce qu'ils savent faire. Hein, donc les jeux solo, narratifs, AAA, c'est ça la marque de fabrique. Et on peut s'inquiéter aussi là-dessus, malgré tout, parce que après Spider-Man 2, qui est sorti à l'heure où vous écoutez ce podcast, il y a finalement aucune visibilité sur leur planning. Et même ce Spider-Man 2, c'est, si je dis pas de bêtises, le seul jeu first party AAA de Sony en 2023. Donc bon, c'est vrai que c'est un seul jeu, bon, mais après on sait qu'il va cartonner, hein. Mais c'est qu'on n'a aucun jeu daté pour 2024.
C'est vrai, j'avais pas réalisé, mais c'est pas ouf bilan.
Ils ont sorti un jeu de baseball, mais qui est un jeu en plus multi-support et tout.
C'est leur spécial là, celui qui était sorti sur le Game Pass de cette série.
C'est ça.
Ça cartonne ça.
Chez les Ricains, quoi. Et alors on pourrait se dire, Sony, on sait qu'ils ont des cartouches, mais le truc c'est que pour la première fois, leur dernière grosse conf, le PlayStation Showcase, n'a pas autant déchaîné les foules qu'à l'habitude. Hein.
C'est vrai.
Alors c'est vrai qu'on s'est dit pendant des mois, peut-être que Sony attend la fin du rachat d'Acti pour pouvoir dégainer ses cartouches. Alors s'il faut, en novembre, ils vont nous sortir un show de 45 minutes qui va éclater tout le monde. Mais comment tu vois ça, toi, ce manque? Est-ce que tu penses qu'ils ont du lourd, mais qu'ils attendent juste de le montrer? Ou est-ce qu'il y a peut-être vraiment une mécanique qui serait un peu grippée pour la première fois?
Ouais, c'est peut-être un peu ça. Parce que même s'ils nous sortent une conf de l'espace en novembre, ça changera pas le bilan de 2023. Donc, ils se sont concentrés sur Spider-Man, sur un peu de matos. Mais on l'a déjà vu dans de précédentes émissions. Voilà, le portal, le VR, c'était un peu... on ne savait pas trop.
Ouais.
Non, peut-être que finalement, et on a évoqué cette bataille autour d'Activision Blizzard King avec un jargon très guerrier, la guerre et tout, peut-être que finalement, ils sont peut-être amoindris, peut-être que ils ont moins la capacité de réaction de Microsoft, c'est deux sociétés qui sont concurrentes, et c'est pas pour défendre Sony, mais c'est deux sociétés qui n'ont pas le même moteur. On va dire que Microsoft a quand même, tu vois, plus de, ils ont un V8, alors que ils ont la capacité financière, ils ont la capacité humaine, même si Sony est toujours devant au niveau du chiffre d'affaires. Là, on voit que, bah, finalement, ils sont peut-être un peu plus frêles qu'au niveau de, au sortir de cette guerre, ils sont peut-être, bah, un peu plus défaillants, quoi.
À moins
de
vie, quoi. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on l'a dit, l'époque PS4 avec Shuhei Yoshida qui gérait le PlayStation Studios, ça a été enfin parfait quoi, ça c'est, et bon ça c'est pas acquis aussi, c'est que bah des fois t'as des soucis, enfin nous on voit quand on prévoit un catalogue de bouquins, oui, sur une année, t'as des changements, t'as des trucs qui marchent pas, t'as des
enfin là l'annonce c'était janvier 2020 l'annonce pardon de l'Activision Blizzard là, quand ils ont, quand Microsoft a dit on veut racheter,
c'était 2021 janvier 2021.
Ouais. Si chez Sony il y a eu la Red Alert et que vraiment tout le monde s'était branle-bas de combat, ils ont en
2022
ouais. Voilà, en janvier 2022. Donc ouais, c'est ça.
Ça va faire 2 ans. Ouais.
Ça va faire 2 ans. Et du coup, j'ai dit 22 mois, je me suis gouré.
Non, c'est ça.
Non, c'est ça, 22 ouais, ouais, mois. Donc imaginez en janvier 2022, alerte générale chez Sony. Il est normal qu'en 2022, le planning de Sony soit convaincant. Le planning de Sony l'année dernière était costaud, il était satisfaisant. Mais quand tu cherches après 20 mois après, justement cette alerte où ils ont été peut-être hyper fébriles, ils se sont dit mais là c'est vraiment la galère, bah, les conséquences elles sont peut-être maintenant, elles sont peut-être dans 6 mois, elles sont peut-être dans 1 an, et là c'est le début la fébrilité apparente de Sony. C'est que ah ça y est, là, quand la guerre a été déclarée, bah, ils ont été tranquilles 1 an, à partir de la seconde année c'était un peu plus dur.
Ouais. Et puis oh, je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais parlons de Naughty Dog, tu vois, qui est quand même le vaisseau amiral de PlayStation. Quand t'as un Neil Druckmann et tu lui dis, bah écoute, tu fais tes jeux habituels qui cartonnent, c'est bien, mais ça serait cool que tu nous fasses un jeu service. Réfléchis peut-être à un jeu mobile et tiens, aide HBO à faire ta série Last of Us. Bah, c'est peut-être normal aussi que les projets avancent moins vite parce que t'es peut-être sursollicité. Et c'est vrai que peut-être que tous les studios internes ont été mandatés pour, je sais pas moi, pitcher moi tous un jeu service, oui, un projet de service. Donc
ça ralentit, ça grippe un petit peu les rouages. Et quand Sony va dire, ben on a une section qui va être dédiée au mobile, ils peuvent pas faire all-in comme Microsoft en disant, ben vas-y, on va racheter King et puis la branche mobile, c'est bon, c'est fait. Ben non, la branche mobile, on l'a vu, moi je l'avais complètement zappé.
Faut la créer, la faire sortir de terre.
C'est la galère, quoi.
Quoi qu'il en soit, ça sera intéressant, je trouve, a posteriori, de voir si ce rachat, ben, il aura marqué un point de bascule dans le rapport de force de l'industrie. Aujourd'hui, on n'en sait rien, mais je pense que dans 5 ans, on pourra avoir un peu une idée des conséquences que ça, tout ça, ça a eu. Et là, bon, ça va être le moment un peu vieux con des os, hein, mais je trouve que c'est un peu, ça sonne presque comme la fin d'une époque. Alors, c'est complètement subjectif et ça n'a pas de réalité concrète pour moi. Mais je trouve que ça y est, on a basculé dans le jeu vidéo un peu de demain. Là, tu vois, tous les GAFAM, on sait qu'ils souhaitent vraiment s'intégrer là-dessus. Microsoft fait partie des GAFAM. On sait qu'il y a, tu vois, les rumeurs de rachat de EA par Disney. On sait que Netflix, apparemment, ils aimeraient bien avoir un GTA sur leur service. Est-ce qu'on n'a pas basculé dans une autre ère où peut-être le jeu vidéo qu'on connaît avec des acteurs qu'on connaît, bah, c'est déjà presque un peu du passé, quoi.
T'as peut-être raison, et comme tu le dis, on ne le verra que dans quelques mois, voire dans quelques années. Après, des acteurs historiques, bah, y a Nintendo.
Déjà, il en reste plus beaucoup.
Ça fait déjà plus de 20 ans que c'est le cas. Donc,
et Nintendo, en plus, la seule entreprise aujourd'hui qui est 100% jeux vidéo, hein. C'est-à-dire que Sony, ça fait aussi du cinéma, de la musique et tout. Microsoft, du cloud, des OS et tout.
C'est pour ça que je dis 20 ans, c'est l'arrivée de Microsoft. Mais Sony, avant eux, comme tu l'as dit, bah, n'était pas du 100% jeux vidéo. Le Nintendo Sega, la grande guerre, ça fait mais Zion que c'est plus le cas, tu vois.
Donc. Mais c'est marrant parce que alors, je lis des trucs sur Sega, j'en dis pas plus en ce moment. Mais je me dis, heureusement qu'ils ont arrêté à l'époque Sega, parce qu'aujourd'hui, comment ils auraient jamais eu les reins de pouvoir tenir dans cette, économie, dans cette industrie.
On vous en dira plus en janvier.
Et c'est vrai que le cloud aussi, hein, ça semble être à terme le mode de consommation de jeux vidéo qui deviendra le plus répandu. Fatalement, je pense. Enfin, là, c'est comme ça.
Je pense qu'il n'y a pas de doute.
Et voilà, donc le jeu vidéo, je pense, dans 20 ans, il aura un visage bien différent de celui qui est là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y avait eu ce mail qui a tourné où un exec de Microsoft demandait à Phil Spencer, hey, t'en penses quoi si on reste chez Nintendo? C'est genre la question vraiment trop naïve. Alors lui répondait de manière très très corpo et sympathique, évidemment. Mais qui disait, certains ont pris ça pour la condescendance, je suis pas tellement d'accord, mais il disait, il faut laisser le temps de Nintendo de comprendre que leur futur, en gros, passera pas par leur propre système. Et moi, j'ai vraiment compris ça comme, ben non, le futur, ça sera le cloud avec des sociétés. Enfin, pour pouvoir gérer ça et pouvoir être, enfin, tu vois, les Netflix, les Disney Plus et tout, n'importe qui peut pas se permettre d'avoir son app de streaming et tout. Et Nintendo, qui font du jeu vidéo et du hardware aussi, est-ce qu'ils auront les ressources et l'envergure aussi pour pouvoir gérer ce genre de service pour eux-mêmes, quoi, tu vois.
C'est clair. Parlais tout à l'heure de différence de moteur entre Sony et Microsoft. Nintendo, ben, ils sont aussi,
c'est un scooter,
coin.
Nintendo, quoi.
Nintendo, un gros scooter, quand
même. C'est un, bon, allez, c'est un petit 125, quoi. Allez.
Oui, c'est pas un tout cube, quoi. C'est pas la grosse bécane. Ça sera hyper intéressant de voir ça, voilà, quelques mois, quelques années. Moi, je me rappelle d'un podcast de Gameblog, hein. Rappelez-vous les podcasts de Gameblog où ils avaient fait, alors c'était déjà un moment, ils avaient fait un podcast, c'était le jeu vidéo dans 10 ans. Mais je crois que ça date déjà.
Ouais,
donc je serais hyper curieux de...
Ça, c'est un exercice, mais ultra compliqué, quoi.
Et de voir qu'est-ce qu'ils ont pu dire, ce qu'ils ont réussi, est-ce qu'ils sont plantés. Si aujourd'hui, au sortir de ta chronique, on devait se faire une petite projection, le jeu vidéo dans 10 ans, franchement...
Après, comme on en avait parlé, quand on parlait d'Assassin's Creed Infinity, c'est que t'auras ta brique GTA, ta brique Assassin, ta brique FIFA, enfin FIFA, IFC, sur ta télé, t'appuies dessus, tu sors ta manette, et puis let's go, quoi.
Ouais, mais tu vas jouer à FIFA en lançant Disney+, tu vas faire comment ça se passer? C'est ça qui est peut-être plus intéressant.
Qui sait?
Ou qui sait, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, bah, ce que vous pensez un petit peu bah, de la fin de cette guerre, de ce deal historique entre Microsoft, Activision, Blizzard, King, et bah, de l'avenir plus global du jeu vidéo, hein, comment vous le voyez dans un mois, dans six mois, dans un an, dans 10 ans. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Nico, merci pour cette chronique. Il est l'heure de faire une petite pause après une belle chronique, on a bien discuté. Une petite pause interlude de top 3 qui s'intéresse cette semaine au top 3 des jeux sans y jouer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le top 3 des jeux sans y jouer.
Ouais, alors, c'est un utilité étrange et qui traîne dans nos idées depuis un bail. Oui. En gros, c'est des jeux que t'as plus ou moins l'impression d'avoir fait alors que t'y as pas joué. Pour une raison ou pour une autre. Et c'est vrai que ça va être intéressant de voir dans quel contexte ça peut se placer.
Ouais, par exemple, bon, ça je dirai après. Moi, il y a un contexte de jeu sans y jouer qui est pour moi complètement étranger, on verra si c'est le cas, puis je le dirai à la fin. Commence avec ton top 3.
En top 3, ça va t'étonner, je pense que c'est le jeu Soleil, donc un de tes jeux cultes.
Oui.
Et pourquoi? Bah parce que, alors là, c'est vraiment dans
je
le sens... non, même pas, c'est que le jeu sans y jouer aujourd'hui, je pense que les gens pensent au streaming, hein, au Twitcher et compagnie. Et c'est vrai qu'il y avait eu à l'époque, alors c'était la JVTV, enfin la web TV de jeuxvideo.com au tout début.
Oui.
Et donc c'était Mr. MV et Ken Bogard qui avait lancé une émission où tu devais refaire tous les jeux d'une console, en fait.
Oui, je m'en souviens.
Et ça s'appelait Console Mania, je crois. Et ils avaient commencé tous les deux, ils jouaient à Soleil, en fait.
Ouais.
Ils ont fait tout Soleil en 2 ou 3 parties. Et du coup, alors moi, je suis pas trop streaming, Twitch et compagnie, mais ça fait partie des trucs où je m'étais un peu posé dessus. Et c'est pour ça, depuis, je suis un peu Mr. MV depuis, parce que j'aime bien.
Ah, c'est là que t'as commencé?
Ouais, et en fait voilà, j'ai vu l'intégralité de Soleil sous mes yeux et c'était plutôt sympa, quoi.
OK. Ah, c'est marrant parce que c'était ça que je voulais dire, tu vois, moi le streaming et les let's play, c'est pas du tout ma came, c'est pas comme ça que je consomme le jeu vidéo et j'ai aucun jeu, j'ai cherché, que j'ai suivi en let's play ou en...
J'en ai pas beaucoup non plus, hein, c'est vrai.
Ou en streaming.
Mais j'aime bien mater des jeux où je sais qu'ils sont pas du tout dans mon délire, tu vois, genre
oui,
des Baldur's Gate, des machins, ça me permet de voir un petit peu le jeu sans, alors que moi j'ai pas envie d'y jouer, quoi.
Ah, mais moi mon top 3 c'est un peu différent, c'est Monkey Island le premier, un jeu sans y jouer. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir décliner, qu'on aurait pu décliner sur l'ensemble de ce top 3. C'est vrai que nous, on publie des livres sur les sagas. Mmh. Donc c'est vrai que quand on les écrivait pas, on les relit tous. Donc ça nous arrive de connaître l'histoire, de connaître tout sur une série, même si on n'y a jamais touché. Néanmoins, Monkey Island, c'est plus... je le connais sans y jouer par l'aura. C'est-à-dire que Monkey Island, on m'en a parlé tellement, j'ai tellement vu de vidéos, de screens, les énigmes du, la queue du singe et tout. Enfin, je suis pas ouf en point and click, j'en ai vraiment pas fait beaucoup, beaucoup. Je crois que j'ai fait Chevalier de Baphomet, c'est super.
Le meilleur.
Mais, j'ai l'impression de Monkey Island, j'ai l'impression de le connaître, alors que je n'y ai jamais touché, j'ai jamais bougé un seul pixel de ce jeu.
Il y a des jeux comme ça, ouais, où tu connais, je sais pas, la musique, alors que t'as jamais joué, ouais. Tu connais l'univers, et comme tu dis, il y a des blagues sur des énigmes que tout le monde connaît aujourd'hui sans avoir forcément joué au jeu, quoi.
Ouais.
C'est fou.
Carrément. Allez, go pour ton top 2.
Alors, mon top 2 te concerne directement, c'est Lollipop Chainsaw.
Oui.
Alors, pour la petite histoire, donc, c'était il y a combien? 15 ans?
Ouais.
On était parti avec des potes en Belgique, donc avec voilà, les amis. Si vous êtes lecteur de Console Syndrome depuis l'époque, vous allez reconnaître. Hein, on est allé chez Cartapouille, l'ami Cartapouille en Belgique, avec Popo et Camoun, qui était aussi de l'aventure Console Syndrome. Alors on n'était pas allé pour voir les musées. Hein, on était allé un peu voilà pour faire la teuf. Et on était 5 mecs à squatter chez Carta. Et effectivement, t'as toujours ce moment de transition quand voilà, faut tous aller se doucher un par un. T'as ce moment où tu vas sécher un peu en attendant que tout le monde fasse sa life. Et je sais pas pourquoi t'as décidé, toi, de te lancer dans Lollipop Chainsaw, qui traînait là-bas et que on n'avait pas fait à l'époque. Et donc, tu jouais par séquence de, je sais pas, 30 minutes, le temps que voilà, tout le monde se douche et qu'on soit prêt à bouger. Et en fait, t'as réussi à faire l'intégralité du jeu pendant ce séjour-là. Et du coup, comme moi, je séchais aussi, j'étais à côté de toi à te mater. Et donc, je t'ai vu faire Lollipop Chainsaw en entier, sous mes yeux, pendant qu'on était en mode teuf chez des potes. Quoi.
Ouais, carrément, mais je m'en souviens. Il est court, il doit faire 4 heures, non?
Ouais, il doit faire 4-5 heures, ouais, pas plus.
Et jeu que je n'ai pas retouché depuis et que je garde malgré tout en mémoire.
C'est alors un bon souvenir.
C'est un souvenir flou que j'ai de ce séjour. C'est marrant parce que mon top 2 te concerne aussi. Alors, c'est un jeu que j'ai un peu joué. Okay. J'ai un peu joué quand même, je l'ai quand même pas mal fait, mais j'ai l'impression de le connaître par cœur et c'est grâce à toi, c'est Assassin's Creed Brotherhood. Alors ça nous permet, alors je crois que c'est une anecdote qu'on a déjà racontée, mais ça va être l'occasion de vous la raconter une nouvelle fois. Quand on faisait les livres à l'époque, Metal Gear, Assassin's Creed, Bioshock, tout ça, quand on était en phase où on refaisait tous les jeux, on se passait la manette quand chacun mourait, l'autre il prenait la manette. Brotherhood, j'ai le souvenir que c'est toi qui avais quand même beaucoup fait le jeu.
Je suis jamais mort.
Parce que t'es jamais mort. Néanmoins, alors j'ai l'impression que je vais parler du Moyen-Âge, mais quand on a fait Brotherhood, alors est-ce qu'on était les premiers au monde hors Ubisoft? Parce que le jeu à Brotherhood est sorti en novembre, notre livre Assassin's Creed comprenant le chapitre Brotherhood est sorti en novembre. Donc sachez qu'il faut un mois d'impression, le livre il faut le maqueter, il faut le corriger, il faut l'écrire. Je pense qu'on l'a eu un mois et demi, presque deux mois avant. Donc je pense que vraiment, hormis les studios Ubisoft en interne, on était les premiers au monde à faire Brotherhood. Donc évidemment... Il y avait pas YouTube, il y avait YouTube, mais il y avait pas de vidéo YouTube, il y avait pas le Wall Street, tout ça, machin, ça n'existait pas. Et donc, nous, on faisait une prise de notes en réel pour, raconter l'histoire de Brotherhood dans nos bouquins.
On écrivait dans nos petits calepins, quoi.
Et, on n'avait pas idée à l'époque de se filmer. Là, au-delà du fait qu'on écrivait à la main sur des calepins, même pas directement à l'ordi pour
gagner. Est-ce qu'on avait des smartphones, déjà?
Oui.
Oui.
Un smartphone, je sais pas. C'est 2015.
On est vieux. Ah, 2000,
Non, c'est Serge, je suis bête.
Ouais, 2010.
2010. Attends, 2010? Bref.
C'est pas sûr qu'on avait le smartphone.
Je sais pas. Et donc, on arrive à la fin de Brotherhood. On est hyper attentif parce que notre boulot est quand même de raconter une histoire. Et là, il se passe, voilà, un twist, une révélation autour de la méta-histoire de tout ça dans Brotherhood. Et on se remarque à la prise de notes à la fin. Moi, j'étais pas sûr. Nico, je me tourne, je fais, il a dit quoi ce personnage? Tu me réponds, j'en sais rien. Donc là, on se retrouve avec un timing ultra serré où on doit sortir un livre pour la sortie de Brotherhood un mois et demi après, où chaque jour est compté. Vraiment, on avait même joué la nuit parce qu'il fallait écrire le chapitre, il fallait le maqueter et après ça part en correction, etc., etc. Et donc là, tu t'as dit, faut refaire le jeu. Et donc moi, j'ai commencé à écrire ou à maqueter, je sais plus. Et j'étais à côté de toi et t'as refait le jeu
le lendemain, donc, une journée.
J'ai l'impression, donc Brotherhood, je l'ai jamais retouché depuis.
Non plus.
Et j'ai quand même l'impression de vraiment bien le connaître parce que on s'est tapé deux runs assez resserrés sur Brotherhood.
C'est un très bon souvenir.
Donc, c'était joué. Sur le moment, on s'est moins marré quand même. Oui. Sur le moment, c'était un peu.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as l'habitude. Attends, il a dit quoi? Attends, je vais voir sur YouTube, je me remate la fin et tout. Mais ce n'était pas possible.
Et c'était pas possible. Ton top 1.
Mon top 1, c'est le jeu Lamerzone. Jeu français, point and click, vue subjective, à la Myst, un petit peu.
Oui.
Et pourquoi?
Oui.
Parce que, le temps jadis, je matais Game One à l'époque, la chaîne de télé de jeux vidéo. Et, souvent, tu rentrais de soirée ou machin, on a tous séché devant Game One à mater des clips, la musique et tout. Ouais. Et ils avaient fait une Solus de Lamerzone, mais tout le jeu en Solus entier. Et évidemment, comme ils avaient pas des millions de programmes, ça passait en boucle. Et donc, je pense que j'ai vu tout le jeu à travers la Solus de Game One, fait genre, tu sais, par des courtes sessions d'une demi-heure le soir en rentrant ou j'en sais rien. Et au final, j'ai dû voir tout le jeu comme ça par rapport à cette Solus Game One. Et j'ai pas le souvenir, ils en aient fait 50 des Solus comme ça.
Comme une série ou?
Un petit peu. Et Lamerzone, c'est vrai que moi j'aime bien les point and click, mais c'est vraiment un Myst-like, quoi. C'est très lent, c'est compliqué et compagnie.
C'était Stone. Hein.
Mais c'était passionnant. Non, mais pour le coup, ça avait, t'as presque cette impression, quoi. Et ça a ce côté très mystérieux, okay. Un petit peu Lamerzone et tout. Et c'est un univers qui est très intrigant. Et je pense que j'ai vu tout le jeu comme ça, quoi.
Oh, on parle d'un temps où il y avait peu YouTube et on regardait Game One, c'est quand même.
Ah non, mais là, c'est anecdote Boomer Time.
Là, hein, ça pique. Moi, c'est plus récent. Mon top 1, c'est Hogwarts Legacy. Et là, j'emporte Ken Bruno avec moi. C'est une façon de faire un jeu, non pas en let's play, mais il y a quelqu'un qui est avec toi dans
le meuf play, on a vu ça.
Qui joue, et Hogwarts Legacy, j'ai vu de la première à la dernière seconde, je me suis même permis d'intervenir dans ta chronique sur Hogwarts Legacy.
Un peu escroc,
mais ouais, lui, vraiment, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai fait, quoi.
Tu n'as pas touché la manette. Alors que j'ai pas. Seule seconde.
Non, vraiment. Alors, et pour le coup, c'est un jeu, alors c'est bizarre, c'est contradictoire, parce que si en fin d'année, là, 2023, il y a une petite session rattrapage qui se fait, j'ai un peu envie parce que Hogwarts Legacy, c'est c'est ta maison, c'est tes choix, c'est la façon dont tu vas naviguer dans ce petit monde ouvert. Mmh. Et même si voilà, elle était à côté de moi, j'y ai pas joué, bah elle allait pas où je voulais moi. Tu vois. Ouais. Donc j'ai
envie de t'approprier ce petit moment.
Un peu envie de m'approprier ça. Donc Hogwarts Legacy, un petit peu plus exemple un peu plus récent dans ce.
Bah c'est le let's play avant internet, ouais. Ça de toute façon.
Dans ce recueil de l'époque. Voilà pour ce top 3 des jeux sans y jouer, voilà, sans streaming. Est-ce que vous êtes férus de let's play? Est-ce que vous avez déjà regardé un streamer faire un jeu de A à Z? N'hésitez pas à nous le dire et à nous balancer d'autres idées de top 3. Là, ça pleut, hein, ça, y a toujours pas mal d'idées. Vous êtes très inventifs. On va passer à la seconde chronique hein, qui va s'intéresser au jeu Cocoon. Petit jeu. Ah non,
ou pas.
Erreur. Alors Cocoon, c'est un jeu qui est édité par Annapurna et développé par Geometric Interactive. Geometric Interactive, le nom, hein, n'oubliez pas, c'est important.
Alors, c'est pas
des
rigolos.
C'est un studio danois qui a été fondé par J.P. Carlsen, l'ancien lead gameplay designer des jeux Inside et Limbo. Donc c'est pas n'importe qui, et Jacob Schmidt, donc qui est programmeur et compositeur sur Cocoon. Alors je sais pas si vous avez remarqué, ça fait quelques années, sur l'ensemble des films hollywoodiens, à chaque fois qu'un mec a bossé sur John Wick, on dit
oui,
c'est un
produit par un mec de John Wick,
le second scénariste, assistant réalisateur de John Wick. Alors Limbo, Inside, j'ai l'impression que c'est pareil. Oui, tous ceux qui ont quitté Playdead, c'est des anciens de Playdead, ils ont travaillé sur Limbo, Inside. Sauf que là, c'est pas une arnaque. C'est-à-dire que vraiment, c'était le lead gameplay designer des jeux. C'est lui qui a inventé les puzzles.
C'est pas comme Somerville, quoi.
Je me souviens plus qui a bossé sur Somerville, mais c'était peut-être le second, le perchiste de John Wick. Alors, le début du développement, il s'est fait à 3 personnes en 2016. Et c'est à cette date, hein, donc, que JP.
2016,
que JP Carlsen a commencé à imaginer Cocoon. C'était juste après son départ du studio Playdead. Donc, il a pas perdu de temps. Mais ça fait quand même 7 ans, oui. Que lui et son équipe bossent sur le titre. Et quand on joue à Cocoon, quand même, j'ai l'impression que ça se sent, quand même, ça fait 7 ans que, en tout cas, c'est bien pensé.
C'est peaufiné.
C'est peaufiné. Donc, voilà, je dis 3 personnes en 2016. Ils ont fini à 50. Encore team, il s'est monté à 130 avec tous les externes,
ouais.
Et tout ça.
Bon, c'est quand même pas négligeable. C'est pas le petit jeu indé à 2 personnes, quoi.
C'est pas le petit jeu indé à 2 personnes. Alors Cocoon, c'est quoi?
Attends, accrochez-vous à votre siège.
Si vous nous écoutez pendant que vous faites votre jogging,
faites une pause.
Ça fait une pause. Et si vous faites la vaisselle, arrêtez. C'est important. Non, on va voir si c'est assez clair. Donc Cocoon, c'est un puzzle game dans lequel on contrôle un petit personnage qui navigue entre plusieurs mondes. Chacun de ces mondes est contenu dans un orbe, sauf que le twist, c'est qu'il est possible d'entrer et de sortir de ces orbes avec sur notre dos un autre orbe, donc un autre monde.
Pas mal. Pour l'instant, t'es pas mal.
Alors, c'est difficile hein, de s'imaginer la chose, hein, car on est ici face à un principe assez abstrait, hein, c'est le principe de récursivité. Alors, la récursivité, en gros, c'est quelque chose qui peut être répété un nombre indéfini de fois par l'application de la même règle. Alors, pour faire plus simple, imaginez des poupées russes, des poupées gigognes, mais infinies et qui fonctionnent dans les deux sens. Donc tu sors tes poupées gigognes ou tu les remets dans les deux sens et ça à l'infini.
Sinon, Inception aussi, ça marche.
On peut aussi penser au film Inception.
Ah, ouais, j'arrête de parler.
Mais c'est pas exactement le même principe. Néanmoins, le film, il traduit parfaitement l'idée de plonger dans un monde. D'ailleurs, à la base, sachez que Cocoon a été imaginé comme étant un jeu en scrolling horizontal, comme Limbo et Inside. Mais l'idée, elle a été abandonnée car on ressentait pas assez le voyage et encore moins la plongée littérale dans les différents mondes. Donc finalement, Inception, même si c'est pas le même principe, plutôt un bon exemple, donc très très belle intervention, Nico. Alors je vous l'ai dit, Cocoon, c'est un puzzle game, mais c'est aussi et surtout un labyrinthe. Et un labyrinthe dans lequel il y a une dimension en plus. Dans de nombreux jeux, c'est souvent la dimension du temps qui est ajoutée pour pimenter un petit peu le gameplay. On a parlé ensemble de Majora's Mask, qui est un jeu en 4 dimensions, justement avec cette dimension temporelle en plus. Mais la dimension en plus dans Cocoon, c'est pas le temps, bah c'est la dimension récursive. Alors vous savez, le truc que je vous expliquais avec le structure de monde dans l'autre. Et ce simple facteur, alors simple, hein, je mets des guillemets, ce simple facteur peut complètement nous perdre, mais genre vraiment nous perdre. Jouer à Cocoon, c'est confronter notre esprit à un nouveau concept qui est totalement inédit et qui est difficilement appréhendable. Néanmoins, le principe de récursivité, bah, il va plus loin que l'ajout d'un simple facteur labyrinthique. Il est aussi lié à tous les puzzles. Il va lier les puzzles entre eux. En fait, dans Cocoon, la solution d'une énigme sera toujours liée à une autre solution d'une autre énigme. Et ça, toute l'aventure, et ça, sur toutes les énigmes. Et donc, petit à petit, on va voir se tisser une toile de game design qui va relier absolument tout ce qu'on fait, les puzzles, mais aussi notre parcours et notre exploration. Et c'est marrant parce que le principe de Cocoon, il est super difficile à expliquer avec des phrases, alors que de son côté, le jeu parvient à se faire comprendre très facilement et sans un seul mot, sans interface, sans rien. C'est un peu ça, je trouve, la magie de Cocoon, c'est que c'est un jeu qui est faussement simple. Alors, attention, simple, mais pas simpliste. Parce que le défi de J.P. Carlsen, hein, le développeur, le lead designer, c'était de proposer une progression qui était fluide, sans accroc dans la résolution des puzzles, alors même que le concept du jeu, bah, il est difficilement explicable. D'ailleurs, il le dit lui-même, faire des énigmes difficiles, c'est vraiment pas compliqué. En revanche, en imaginer des simples, ou du moins des équilibrés, c'est beaucoup plus complexe. D'autant plus avec un jeu qui est sans tuto, sans HUD et avec des commandes limitées au strict minimum, c'est-à-dire un seul stick et un seul bouton.
C'est vrai.
Cocoon, c'est ça. Il y a un seul stick, un seul bouton.
Et t'as jamais de pop-up, fais ci, fais ça.
Jamais. Et c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Comment Cocoon parvient à se faire comprendre? En fait, le jeu s'explique de lui-même grâce à son affordance. Alors, l'affordance, c'est quoi? Alors, c'est vraiment le podcast des mots compliqués, des concepts chelous. On en a déjà parlé de l'affordance dans un précédent. Alors, l'affordance, c'est la capacité d'un objet ou d'un système à évoquer par lui-même son utilisation ou sa fonction. Par exemple, une fourchette. Naturellement, on va la saisir par le manche et piquer avec les pointes. Après, je sais pas si vous en souvenez, mais dans le film La Petite Sirène, Ariel se sert d'une fourchette comme d'un peigne.
C'est vrai.
Elle se trompe, c'est marrant, mais ça montre bien l'affordance de l'objet, car en réalité, cette fourchette pourrait clairement être un peigne, et donc elle l'utilise de la façon logique. Eh bien, Cocoon, c'est pareil, c'est comme une fourchette. Le jeu possède une affordance de dingue. Il a donc une capacité incroyable à faire comprendre ses systèmes par lui-même, sans aucune explication, tu l'as dit, sans pop-up, sans tuto, sans tout ça. Il suffit d'y jouer, et on capte. Alors, on pourrait croire que c'est facile hein, pour un jeu de se faire comprendre, mais pas du tout. On pourrait croire aussi que c'est le fruit du hasard. Alors ça, encore moins. Expliquer les règles, expliquer ces règles pour un jeu, c'est un vrai défi en termes de développement. Et le fait que la maniabilité soit limitée à un bouton est là pour que le joueur, en fait, il oublie la manette. C'est pensé uniquement pour favoriser l'immersion. C'est ainsi pensé pour favoriser la bonne compréhension du jeu. Pour l'anecdote, sachez qu'il devait y avoir un orbe rythmique dans le jeu. Car je l'ai même pas précisé, hein, car chaque orbe dans le jeu va t'octroyer un nouveau pouvoir. Et cet orbe rythmique devait fonctionner avec la bande-son du jeu. Mais les devs, ils ont jugé que c'était trop distrayant et que ça allait couper le lien implicite qui relie le joueur et le jeu. Et donc, que ça pouvait un petit peu amoindrir la bonne compréhension, un petit peu le flow, tout ça.
Oui, c'est vrai qu'après coup, je me dis oui, c'était compliqué.
La musique, parlons-en. Bah, comme l'ensemble du game design du jeu, le minimalisme de la bande-son cache en réalité une grande complexité. On l'a vu, les puzzles ont été bâtis sur un principe mathématique, la récursivité. Eh bien, bah, vous serez peut-être étonné d'apprendre que la musique de Cocoon est en partie générée en temps réel, pendant que vous jouez, et ça avec des outils créés par Jacob Schmitt, le compositeur, cofondateur du studio, et au passage, programmeur, parce que bon, ils sont tous pas mauvais quand même dans ce groupe. Et comme la maniabilité qui est limitée à un seul bouton pour ne pas parasiter l'expérience de jeu, bah, la musique, elle va aussi s'adapter en temps réel au parcours du joueur, à sa réflexion et à son avancée dans les puzzles. La maniabilité, comme la musique, bah, sont des soutiens à l'expérience. Elles représentent des explications implicites et transparentes qui vont aider le joueur. Nico, ma question, c'est est-ce que tu avais remarqué que la musique t'accompagnait dans ta réflexion?
Alors c'est vrai qu'avant tu m'as dit parler de la musique, je dis putain mais je saurais pas quoi dire, mais effectivement oui, il y a cette composante qui est assez dingue. Hein. C'est comme quand tu joues au jeu chaud, froid, c'est quand tu te rapproches.
Exactement.
Plus tu te rapproches de la solution, plus la musique elle monte en emphase et tout.
Moi je m'en étais pas spécialement penché dessus, j'avais pas remarqué. Et c'est vrai que c'est sur un truc où je voyais que ça galérait, qu'il y avait quelque chose qui m'emportait. Je me suis dit, mais en fait, c'est la musique qui te...
Et c'est ça qui est brillant, c'est que ça colle avec ton état d'esprit, avec ce moment un peu de la révélation et de l'euphorie derrière. Quoi. Et en fait, ça devient transparent alors que...
C'est incroyable.
Qu'elle est là. Ouais, c'est...
Un autre truc qui caractérise Cocoon, c'est son atmosphère. Que ça soit le design de son héros ou des environnements. Comme souvent dans le jeu vidéo, c'est le game design qui va dicter les choses. C'est très vrai chez Nintendo, par exemple. Chez le petit artisan de Kyoto, on pense d'abord le gameplay, et après on y appose un vernis Mario, Donkey Kong, Kirby, ce que vous voulez. Bah, c'est ce qui s'est passé avec Cocoon. Au tout début, bah, y avait des puzzles, et un personnage principal bah, qui avait une forme un peu neutre. Bah, les développeurs ils lui ont mis une cape, parce que c'est stylé les capes. Après ils ont coupé la cape en deux pour une raison technique, et de là, bah, le petit bonhomme il ressemblait à un coléoptère. C'est tout bête, mais voilà comment a été choisi le design insecte du jeu.
Il est trop mignon.
Trop mignon. Ouais. Après, bon, je vais pas dire que le design de Cocoon il est 100% fonctionnel. Ils ont évidemment itéré autour de ce thème des insectes et ils ont construit le jeu avec ça en tête. Et au final, ça contribue énormément à l'ambiance de Cocoon. Il y a une atmosphère un petit peu alien, clairement biomécanique, et ça, couplé au délire insectoïde, bah, ça fonctionne très bien, je trouve. C'est intriguant et malaisant. C'est un petit peu entre les deux.
Ouais, mais on n'a pas le côté dégueu qu'il me repousse un peu, moi, dans ce genre de design.
C'est pas répugnant. Je dis malaisant, c'est parce que, par exemple, tu vois, la biomécanique, tu vois que ça bouge, tu crois que c'est vivant, mais ça fonctionne pas avec des rouages, donc tu te dis, mais pourquoi ça se gigote, t'es? Donc, c'est un petit peu entre les deux. Perso, j'ai trouvé ça hyper intriguant. Toi, Nico, fan d'insectes ou pas? Est-ce que l'ambiance t'a plu?
Alors, je suis ni fan d'insectes, ni fan de biomécanique, et pourtant, j'ai adoré l'ambiance, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu féerique, un peu, enfin, dans les couleurs, dans...
C'est très pastel.
Ouais, c'est très doux, et j'ai jamais eu un truc qui m'a rebuté. Et justement, quand la fin, évidemment, comme dans tout ce genre de jeu, ça part un peu en live à la fin. Bah, t'as cette étrangeté qui apparaît, mais qui, voilà, qui est, j'ai jamais trouvé ça repoussant, en fait.
T'es pas un fan de Giger, toi?
Pas du tout.
Alors, avec un concept de jeu si abstrait, on se doute bien qu'on va pas Cocoon ne va pas nous raconter une histoire avec des cinématiques et des longs dialogues. Dans Cocoon, l'emphase, elle est mise sur le flow et l'évolution progressive du joueur, bah, c'est pas pour la couper avec une histoire trop riche ou trop intrusive. Néanmoins, bah, je dirais pas que Cocoon nous raconte rien. Il nous fait ressentir les choses. Comme pour le reste, en fait. En fait, il va nous faire ressentir les énigmes, et parfois, on va même résoudre les énigmes sans avoir tout compris. On va ressentir la musique sans forcément l'écouter, et de la même manière, on va ressentir les thématiques et l'histoire sans pour autant la suivre avec attention. Sans rien vous spoiler, je vous assure, je vais rien vous spoiler, voilà ce que moi j'ai compris. Alors déjà, le petit héros, là, le Coléoptère Scarabée, pour moi, c'est un petit astronaute, donc c'est un explorateur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherche à survivre. Après, je dis astronaute, c'est justement pour la symbolique de l'astronaute, parce que le statut insecte, il est totalement assumé, il est important. Bah, le jeu s'appelle Cocoon, quand même, hein, faut pas déconner. Et quand on s'y penche, bah, on voit que tout ce délire insecte, les insectes en eux-mêmes, bah, c'est des êtres qui sont surpuissants. On connaît les fourmis qui peuvent soulever 60 fois leur poids, les mouches scaphandres, hein, tu les connais, qui peuvent aller sous l'eau dans une bulle d'air.
Oh,
franchement, c'est super stylé. Et les insectes, c'est aussi un délire, hein, niveau reproduction. Nico, si tu veux nous parler des punaises de lit, ils ont quand même des super pouvoirs.
Renseignez-vous sur la sexualité des punaises de lit, c'est effarant, c'est effrayant.
C'est effrayant, mais c'est beau aussi. C'est que ils sont...
La vie trouve son chemin, comme on dit.
Les champions, quoi. En fait, les insectes, bah, ils ont des super pouvoirs. Et on sait que s'il y a une attaque nucléaire généralisée, il restera plus grand-chose, plus d'humains, ça c'est sûr, mais il restera des insectes, comme des cafards. Mais c'est un peu moi ce que je retiens de Cocoon. C'est la puissance des insectes et cette force biomécanique qui pour moi évoque une vie végétale et une faune qui ne meurt pas, qui ne meurt jamais, qui survit même dans un espace hostile, même dans un espace différent, même avec plusieurs dimensions. C'est ce que j'ai cru comprendre dans Cocoon, qu'on doit s'échapper d'une situation particulière et faire face à une menace représentée par des boss, alors qu'on est dans un jeu d'énigmes, qui sont très ludiques, très bien designés et qui agrémentent vraiment le rythme du jeu. Nico, ces boss, tu les as trouvés comment? Le scénario, tout ça. Comment tu as appréhendé un petit peu tout ça?
Bah, ça se place clairement dans l'héritage perpétué par Inside aussi. Voilà, ces jeux qui racontent une histoire assez nébuleuse. Alors vraiment, pour le coup, en premier run, je serais incapable de vous raconter ce qui se passe dans le détail.
J'ai eu la chance de le faire deux fois, du coup.
Mais comme tu dis, c'est que même si on comprend pas tout, on a quand même ce sentiment de, on voit qu'il se passe des choses, ça raconte quelque chose, et ça reste intéressant et intriguant, quoi.
Pour l'info, il y a une fin secrète qui va chercher du côté de Tunic. C'est-à-dire que, à la lecture de la solution, moi, j'ai rien capté. Je saurais pas comment faire, c'est vraiment très, très complexe.
Très compliqué à déclencher, et pour le coup, je trouve qu'elle renseigne pas beaucoup plus sur le fond du scénar non plus, quoi.
Alors, en conclusion, Cocoon, pour moi, c'est un coup de cœur, mais surtout, je suis admiratif de la qualité formelle du jeu. Tout simplement parce que c'est un jeu qui est trop bien fait. C'est une leçon de game design. Car il faut bien se rendre compte de quoi on parle. Cocoon, c'est quand même un jeu qui est scripté, mais qui se déroule dans un monde infini. C'est un jeu dirigiste, mais dont les balises sont invisibles. C'est un puzzle game, mais dans lequel il n'y a aucune surcharge mentale, où tout est toujours très fluide et parfaitement rythmé. D'ailleurs, on pourrait croire que Cocoon est un jeu facile, alors que c'est un jeu d'énigmes, ce qui pourrait sembler, je pense, contradictoire. Et on pourrait croire que le jeu est facile justement parce qu'il est bien pensé. Et je pense que c'est ça le tour de magie de Cocoon. C'est un jeu dans lequel on résout des puzzles sans saisir pleinement les implications qui sont sous-jacentes. Et quand on termine le jeu, on comprend le tour de magie. Et à la fin, quand je l'ai vu, ça m'a fait remettre en question tout ce qui a précédé. Alors je parle pas des révélations scénaristiques, mais bien de mon implication, de tout ce que j'ai réalisé dans l'aventure et par quels moyens. Le jeu, il est bien fait parce qu'on est bien guidé. Et finalement, le joueur, il a fait exactement ce que les développeurs voulaient. Et en réalité, dans Cocoon, on vit une espèce de mise en abîme contrôlée dans laquelle on utilise des notions mathématiques qui nous sont, pour la plupart, complètement inaccessibles et sans nous en rendre compte. Enfin, le jeu, il nous a fait faire un truc incroyable. C'est même à se demander qui résolvait les puzzles pendant notre partie. Est-ce que c'était nous ou est-ce que c'était les développeurs? Et là, bah, on entre dans une nouvelle dimension méta qui mettrait un petit peu en abîme la condition du joueur et questionnerait son statut de marionnette. Non, franchement, définitivement, Cocoon, c'est pour moi le jeu le mieux pensé de l'année.
C'est un jeu brillant, mais vraiment au sens, voilà, l'expression premier sens du terme, pas du tout galvaudé, c'est brillant de A à Z. Et justement, toi, tu l'as fait quasiment deux fois, c'est ça?
Je l'ai fait deux fois.
Et je serais intéressé à avoir ton avis, parce que quand on refait un jeu, souvent, t'es moins attentif aux signaux qui t'envoient le jeu, et comme tu connais les réponses, t'as tendance à pas suivre le cheminement que t'aurais eu en premier run. Et est-ce que le jeu, il est pas plus dur, finalement, en deuxième run, quand tu suis moins un peu le
ouais,
flow, quoi?
Je vois exactement ce que tu veux dire, et c'est là où le jeu, il est, encore une fois, bah, brillant, c'est que on a essayé de vous l'expliquer là, le jeu nous contrôle implicitement, nous fait utiliser des signaux sonores, visuels et tout, on arrive à utiliser ben voilà la récursivité, on est dans ce truc délire complètement ouf et on t'arrive à résoudre des puzzles sans t'en rendre compte. T'as ce flow qui est incroyable et en second run, la magie elle prend pas, t'es encore plus en phase. Mmh. C'est-à-dire que moi j'étais en mode no control et j'étais fou comme ça.
Oh ouais, possédé, j'étais là, je suis possédé.
Mais sur le flow vraiment, tu vois, cette espèce de rivière en fait, rivière qui a été façonnée par les développeurs. Et qui dans un second run, bah, tu vois les fils justement des marionnettes, tu vois le tour de magie, tu fais mais j'ai compris ce que t'as fait. Mmh. Là j'étais encore plus emporté dans le délire quoi.
Mais c'est vrai, t'as raison de dire, c'est enfin au final c'est pas tant un puzzle game que presque un walking simulator. Alors il y a quand même de la réflexion à avoir et des énigmes, mais et c'est peut-être la seule micro réserve que j'aurais sur le jeu, c'est que il fait en sorte toujours de baliser l'aventure comme tu l'as dit de manière visible, mais genre il te laissera jamais errer pendant un diplôme à savoir quoi faire. C'est quand t'as fini avec une zone, il va trouver un moyen de te bloquer l'accès à cette zone. Et tu sais que ton champ de réflexion, il est toujours très limité en l'environnement immédiat.
Exactement.
Et pour le coup, moi, c'est vrai que j'aime bien les jeux quand ils te font un peu cogiter et tout. Et il y a des fois, je me disais, mais en fait, réfléchis pas. C'est que le jeu va te mettre sur le chemin ce que t'as besoin. Et en fait, pour les énigmes, t'as presque plus besoin de réfléchir. Faut juste se laisser porter.
Faut un peu ressentir le truc, c'est vrai.
Donc, le côté puzzle game peut être un peu atténué, mais t'as quand même, enfin, le dernier trois quarts d'heure du jeu, j'ai quand même saigné du nez parce qu'il faut faire des gymnasies mentales, donc vous inquiétez pas, il y a quand même après de quoi cogiter, quoi.
C'est vrai. Mais le joueur, il nous cloisonne, comme je le disais, dans un monde qui est infini. S'il avait fait péter ses balises, on n'était pas, on finissait pas la première ou la seconde énigme.
Ouais. Parce que. Et ça aurait généré de la frustration.
Mais je pense que ça aurait été un mauvais jeu vidéo. C'est que c'était pas possible. Là, il nous cloisonne dans des espaces où, en fait, il va nous donner les outils. Et c'est que ce qui est autour de toi va te permettre de résoudre l'énigme. Et c'est vrai que ta réflexion sur le Walking Simulator, ouais, franchement, c'est un peu ça. Et je pense que ça pourrait être une réflexion que certains vont avoir en disant, mais ce puzzle game ne m'a pas intéressé parce qu'il a été trop facile. Parce qu'il m'a pas challengé. Après, moi, je l'ai trouvé satisfaisant. C'est-à-dire que vraiment, j'étais très content. À chaque fois, j'étais là.
C'est le voyage qui compte.
Est-ce que c'est peut-être que dites-nous, mais est-ce que c'est kiffant de bloquer 3 jours sur une énigme? On a parlé de Monkey Island tout à l'heure. Est-ce que ça fait kiffer quelqu'un encore aujourd'hui de bloquer en disant c'était juste compliqué?
On a des bons souvenirs parce qu'on était jeunes et qu'on n'avait rien d'autre à faire, mais on découvrirait ce jeu aujourd'hui, ça sera infernal quoi.
Ouais, tu casses la manette, tu casses la télé. Là, on est sur des puzzles qui sont censément être extrêmement compliqués que t'arrives à résoudre. T'as un sentiment de satisfaction qui est maboule et à la fin, comme je vous disais dans ma conclusion, c'est que t'as un espèce de recul. On a tous pensé à la fin de Men in Black, parce que voilà, c'est même pas la fin du jeu, là, c'est le principe du jeu. C'est-à-dire que c'est des billes dans des billes dans des billes. Et la fin de Men in Black, c'est que finalement, notre monde est contenu dans une bille qui est lui-même contrôlée par un alien qui a un sac de billes. C'est exactement ce principe. Mais c'est ce principe, est-ce que je disais tout à l'heure, est-ce que finalement, la mise en abîme de qui contrôle qui, le game designer, à quel point il nous fait faire ce qu'on voulait, est-ce que nous, on s'amuse, mais finalement, on est juste là, on va faire ce que le mec, il y a 6 mois, il a pensé. Mais t'as une réflexion sur tout ce que je viens de faire. Le jeu est pas très long, on est sur du 4-5 heures.
Ouais.
Tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de faire pendant 4-5 heures? En fait, j'ai fait exactement ce qu'il voulait. Quand j'ai refait le jeu, je me suis pas posé cette question, j'ai re-été emporté dans ce flow. C'est une belle année du puzzle game. Il y a un autre jeu qui m'a marqué cette année sur le puzzle. On en reparlera sûrement sur les bilans. Mais là, on est sur une année de ouf. Et même les petits jeux surprises, parce qu'on a appris à l'exister. En tout cas, nous, notre intérêt s'est manifesté au Game Awards, je crois. Summer Game Fest. On a vu un trailer, puis on vous en a parlé. Je crois qu'il était dans la sélection des jeux qui nous avaient marqué. Mais là, le petit jeu, il sort de nulle part et il arrive. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur. C'est un truc.
Un peu comme Shadow of Sinnar, je pense. C'est des jeux qui ont été ultra playtestés en fait, et pour avoir cette fluidité, ce naturel de la progression, quoi. Et le jeu, il était à que dalle de basculer, quoi. Dans le côté chiant, dans le côté.
Oui, c'est ça. C'est qu'il est à rien d'être ben, presque mauvais, quoi. Je pense que ça aurait pu être une catastrophe.
Ouais, en tout cas, il est dans le Game Pass, donc si jamais, testez-le. Parce que si le côté, on parle à côté insecte et tout, vous dites, oh, ça a pas là. Matez au moins juste une vidéo du jeu pour voir la gueule que ça a et le côté, juste en deux secondes, un peu ludique que ça peut procurer. C'est vrai que moi, si j'avais entendu parler d'un jeu insectoïde, machin, j'aurais pas, ça pourrait pas brancher, mais matez une vidéo, quoi.
Sur un principe mathématique. Ouais. Je suis pas sûr que ça m'intéresse. En tout cas, il était, Chants of Sinnar ou même Cocoon était à un doigt d'être des mauvais jeux, et finalement, ils sont des jeux excellentissimes. Ils étaient à un doigt d'être éclipsés complètement sur, dans cette marée de jeux triple A, de jeux exceptionnels, de jeux de qualité. Mm. Et finalement, en tout cas, dans nos petits réseaux, on va dire, que Chants of Sinnar a réussi à émerger. Cocoon, j'ai l'impression qu'on commence à en parler aussi.
Ouais.
Donc c'est quand même positif, en tout cas pour ces deux jeux, quoi.
Et c'est vrai que dans une fin d'année aussi chargée où un triple A chasse l'autre, tu vois, chez Sœur, on est trois avec Damien et tous les deux, avoir trouvé le temps de faire le jeu malgré tout, tu vois. Donc c'est vraiment qu'il est.
Tu le prends.
T'as envie de le faire, quoi.
Ouais. Parce que sachez qu'aujourd'hui, il y a Spider-Man 2 qui sort. Donc ouais. Là, on vous parle de Cocoon. Bah, c'est toujours aussi sympa de mettre en avant les jeux qui nous ont tapé dans l'œil et dans le cœur. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez pu essayer Cocoon et si vous avez d'autres coups de cœur à nous balancer les trucs. Hein, parce que là, l'année est chargée. Les mois, les semaines à venir vont être chargées. Les mois, il reste 2 mois quand même.
Oui.
C'est pas beaucoup. Mais avant de vous révéler ce qui va se passer dans Red Alert la semaine prochaine, on va vous remercier de nous suivre toujours plus, de nous mettre des notes sur les plateformes, les applications de podcast d'écoute, je sais plus dans quel ordre il faut le dire, Spotify, Deezer, on est absolument partout, sur YouTube.
Sur Apple Podcast, là, il y a eu plein de coms, plein de notes, là, c'est celui que je check, moi, mais c'est la folie. Là.
Franchement, merci pour votre soutien, ça fait super plaisir. C'est l'heure aussi de faire la bise à toute l'équipe, à Ken, à Damien, à Ludo, et aussi l'occasion de vous dire que si vous aimez nous écouter, peut-être que vous allez aimer nous lire.
Oui.
Ça peut être l'occasion.
Parce que Sœur d'édition, voilà, c'est une maison d'édition spécialisée dans la pop culture au sens large. On a plus de 100, 150 bouquins.
Plus de 150.
Voilà, jeux vidéo, séries télé, mangas. Forcément de quoi vous faire kiffer, que ce soit en librairie ou sur notre site internet.
Et actuellement, on parle aussi dans nos livres, pas que de gros triple A, mais aussi de petits jeux, mais qui ont connu un succès énorme, Undertale, voilà, qui sort là actuellement chez Serd, dispo sur notre site et en librairie. Donc voilà, le prisme des jeux traités est large.
Ouais, et Harry Potter aussi, en cette période de Noël, je pense que ça peut être le compagnon idéal.
Carrément. Que se passe-t-il dans Red Alert la semaine prochaine, Nico ?
Alors, on a eu un top 3 très nostalgique. Est-ce qu'on n'aura pas une émission la semaine prochaine très nostalgique, en rejouant un petit peu le sacro-saint duel Mario Sonic ?
Soyez là, je pense, parce que on va faire pas deux chroniques, on va faire une émission croisée. Sonic à l'occasion de la sortie de Sonic Superstars et Mario à l'occasion de la sortie de Mario Wonder. Wonders ?
Je sais plus.
Voilà, donc on va se faire des thématiques, on va se répondre, on va se dire, ben voilà, ton Mario, il propose quoi ? Ben ce Sonic, il propose ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien ? On va tenter de trouver un truc, émission croisée.
Voilà, et peut-être que la conclusion, ça sera, les deux jeux sont trop bien.
Espérons. Mais pour le savoir, il faudra être là la semaine prochaine. On vous dit encore merci, et on vous dit à la semaine prochaine.
Bye bye.